Pierre de Villeneuve.
Les débats de Panorama jusqu'à 19h sur Europe 1. Quel constat sécuritaire, un couteau par jour. Les violences ont redoublé ces dernières semaines et de surcroît après le 7 octobre, des couteaux font leur apparition. Le couteau trop facile à se procurer, le couteau trop facile à dissimuler et aussi mortel qu'une arme à feu. Que penser de la sécurité en France à un peu plus de 6 mois d'un événement comme les Jeux Olympiques 2024? On en parle avec les experts. Bonsoir Christian Proutot.
Bonsoir.
Fondateur du GIGN, préfet lors des JO d'Albertville en 1992, et en ce qui concerne le GIGN, on peut lire le GIGN par ceux qui l'ont commandé, Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN dont vous faites partie, puisque vous êtes le fondateur, vous avez été le premier commandant du GIGN, c'est chez Mareuil Éditions. Bonsoir aussi à Jean Guédira, pardon.
Bonsoir.
Vous êtes directeur communication sponsoring du LCL. Pourquoi ? Parce que la banque, avec Aris Interactive, a réalisé une étude auprès justement des Parisiens à l'approche des JO 2024. Et puis, puisqu'il y a des grands événements, vous êtes également partenaire du Tour de France. Et on espère que ça va bien se passer, comme disait l'autre. D'abord avec vous, Capucine Patouillet, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
On va faire un petit peu un tour des chiffres. La sécurité des JO, c'est l'un des grands défis pour les autorités françaises qui traînent comme un boulet l'échec de la finale de la Ligue des Champions 2022.
Oui, rappelez-vous ce 28 mai, une foule de supporters bloqués devant les grilles du Stade de France, une panique causée par des jeunes venus forcer les barrages de sécurité et une intervention musclée des forces de police à coups de bombes lacrymogènes. À quelques mois de la cérémonie d'ouverture, tout l'enjeu c'est de ne pas réitérer cet échec. Après une Coupe du Monde de rugby réussie, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a dévoilé fin novembre le dispositif de sécurité dans les colonnes du Parisien. Au programme notamment 4 périmètres de sécurité, le périmètre organisateur qui concerne directement les sites de la compétition et qui concerne les sportifs et leurs équipes, mais aussi les organisateurs, les journalistes accrédités ou encore les prestataires. Il y a ensuite le périmètre dit de protection ou SILT, issu de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Puis le périmètre de circulation rouge où la circulation sera interdite à tous les véhicules sauf dérogation. Et enfin le périmètre de circulation bleue dans lequel le but sera de réguler la circulation pour éviter, je cite le député, le préfet, circulation de transit inopportune.
Et dans tout cela, qu'en est-il des riverains et des résidents ?
Alors les restrictions ne seront applicables que le temps des épreuves, selon Laurent Nunez, avec une période de 2h30 avant l'épreuve et 1h après pour sécuriser les sites concernés. Piétons et cyclistes ne sont toutefois pas autant impactés que les automobilistes qui sont eux les premiers concernés par ces mesures. Les dérogations seront mises à disposition pour les riverains, taxis, véhicules d'urgence, de secours ou de dépannage, grâce notamment à un QR code qui sera à présenter au moment des contrôles si vous résidez en zone rouge notamment. Une consultation est en cours jusqu'à mi-janvier pour arrêter définitivement la liste des catégories de personnes qui seront directement concernées.
Merci beaucoup, ma chère Capucine Patouillet. Alors justement, vous qui avez été préfet lors des JO d'Albertville en 1992, Christian Proutot, comment ça se prépare ?
Ben c'est un vrai challenge parce que en fait la sécurité, on s'arrête bien évidemment à ce qui impacte le plus l'imagination. C'est avec le souvenir malheureusement de ce qui s'était passé à Munich, c'est une agression dont le but est d'attirer l'attention à travers un événement sur un autre problème, donc détourner l'attention avec les conséquences que cela peut avoir. Alors sur la question que vous posiez, c'est l'ensemble des services qui sont concernés. On n'a pas que le terrorisme derrière tout cela, la sécurité, c'est la sécurité également des flux, parce que on sait très bien que dans les grands événements, il peut y avoir des bousculades, il peut y avoir beaucoup de choses, mais il y a également la sécurité alimentaire, il y a tout un tas de choses qui, dans l'image d'un événement, qui est essentiel comme le pour un pays et pour le pays organisateur comme les Jeux Olympiques, le moindre petit truc peut très bien avoir une incidence importante, désastreuse. On le voit avec ce qui s'est passé, ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire l'affaire qui s'était déroulée au départ autour d'un truc relativement banal, un match de football, où à partir d'une mauvaise évaluation, d'abord parce qu'il y avait eu un report, rappelez-vous, puisque la France avait repris cet événement en deuxième rideau, si j'ose m'exprimer.
Oui, ça devait être un autre pays qui devait le faire au début.
On avait accepté de le faire avec quelque chose que l'on connaissait malgré tout de la part des Britanniques, c'est-à-dire une double billetterie qui, mal gérée, a amené des flux, en plus de flux que l'on a mal gérés, qui au niveau du contrôle d'accès, ce qui était majeur dans un événement, on l'a vu dans ce que l'on a plutôt bien fait au niveau de la Coupe du Monde, peut amener des bousculades, et puis en périphérie des bousculades, bien évidemment, tous les malfaisants qui peuvent profiter de l'instant pour faire leur marché. Alors, tout ça, pour celui qui organise, si on arrive à un système pyramidal, ce qui n'était pas très possible sur les Jeux Olympiques, en particulier d'été sur Paris, puisqu'il y a un préfet de police, donc il y a déjà une structure existante, ce qui n'était pas mon cas quand j'ai fait Albertville,
oui.
Où j'étais dans une zone où il y avait une gendarmerie.
Oui.
C'était pas du
c'est
tout
pas les mêmes services, comme non. On dit. Donc, ce ne sont pas les mêmes services.
Là, à cette époque, on a reconstruit tout le système administratif avec des zones, 7 sous-préfets, parce qu'on avait un problème qui ressemble exactement à ce qui se passe actuellement, c'est que pour les Jeux de juillet à Paris, c'est qu'il y a plusieurs zones, tout ne se fait pas à Paris. Donc il y a plusieurs zones, comme il y a plusieurs stades quand on fait la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Et cette redistribution permettait d'avoir, ce que j'avais mis en place, des sous-préfets qui étaient responsables de l'ensemble des services, qui souvent ne dépendent pas de la même direction, pour avoir un commandement vertical. Alors la vraie problématique sur Paris, c'est d'abord la cérémonie d'ouverture.
Et Jean Guédira, alors justement, vous avez planché avec Harris Interactive. Alors évidemment, il y a votre événement à vous parce que vous êtes partenaire, c'est le Tour de France qui arrive, qui est un événement qui arrive du coup juste avant, hein, c'est ça, juste avant les JO 2024.
Le 29 juin.
Et alors vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit on va faire un combo pour voir quelle est la question sécuritaire
Non, alors, l'observatoire des urbains que l'on a avec Harris Interactive depuis 5 ans, ça prend un peu le pouls hein, des aspirations des citadins. Des urbains pour savoir quels sont, face aux grands enjeux qu'ils ont, leurs nouvelles tendances, leurs évolutions. Et donc là, on s'est dit, année olympique oblige, on va les sonder sur le sport en général, et on a cette question olympique qui est sortie très très vite. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a trois quarts des Français, enfin des urbains, parce que là on est sur les urbains, donc des urbains qui sont favorables au JO. C'est une super chose, on est fiers. C'est une...
Même puis, si on sait qu'il y aura des embouteillages, qu'on ne pourra pas passer, que le métro sera coupé, voilà, que les taxis seront trois fois plus chers, voilà. Qu'on ne pourra même pas accéder à certaines zones de Paris.
C'est l'ambivalence. Ils sont les 75%, ils sont 50% à dire bon, mais on est inquiet quand même.
Ouais.
On est inquiet sur la sécurité, on est inquiet sur les transports. C'est les deux gros pôles qui émergent au niveau de cet observatoire.
Et quel est le degré d'inquiétude? C'est-à-dire inquiet sur la sécurité, ça veut dire quoi exactement?
Tout ce qu'on connaît ces derniers mois accentue, hein, bien entendu, cette inquiétude. Donc c'est la sécurité physique, c'est la sécurité, comme le disait le préfet, c'est la sécurité au quotidien, les accidents, la possibilité de se déplacer aussi normalement. Et c'est difficilement quantifiable, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à nommer ces dangers, mais c'est cette inquiétude. Et moi, si je reprends ma casquette de partenaire d'ASO à Maurice Sport Organisation sur le Tour de France, nous, on a ce challenge chaque année.
Oui.
Chaque année, pendant trois semaines, il y a 3500 kilomètres. 3500 kilomètres,
ça bouge.
Et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque spectateur. Hein. Et globalement, ça se passe bien.
Ça se passe bien, ouais. Globalement. Alors je note le globalement entre parenthèses, parce qu'il peut y avoir... Quels ont été les événements un peu touchy, comme on dit en bon français, ces dernières années sur le Tour de France?
Vous avez en tête une spectatrice qui était avec une pancarte et qui a fait chuter un coureur parce qu'elle était trop prête. Mais c'était plutôt...
Il n'y a pas eu de couteau.
Voilà,
je parlais de couteau en introduction.
Non. Voilà. Alors, il y a un dispositif de sécurité qui est très fort, qui est très rodé. Il y a une très grande expérience. Hein. C'est ça aussi. Je pense qu'il est important, c'est-à-dire que ça fait 42 ans qu'on est partenaire du Tour de France, donc on connaît à notre niveau, mais à Amaury Sport Organisation, c'est encore plus fort. Donc je pense que, et vous l'aviez dit dans la finale de la Ligue des Champions, quand on prend un événement de manière un peu trop rapide, un peu trop récente, ça peut être compliqué. Là, sur les JO, on a eu un peu de temps pour s'y préparer.
Christian Proto, Jean Guédira le dit, le plus gros danger, c'est que le danger, justement, il n'est pas identifiable. Ça peut partir d'un petit rien, en fait.
C'est ce qui est l'empêcheur de dormir de la plupart des organisateurs. C'est ce à quoi on n'a pas pensé et qui malheureusement peut arriver. Par exemple, vous évoquiez cette dame qui imprudemment a commis cet accident, mais vous oubliez également les écolos qui ont envie de faire parler d'eux et qui bloquent le tour, par exemple. Il peut y avoir la même chose, c'est-à-dire cet événement est suivi par je ne sais pas combien de milliards de téléspectateurs.
Oui, c'est
déjà rien que pour nous, les JO.
Une des plus grosses audiences télévisées dans le monde.
Que les JO d'hiver, on n'était pas loin à 2,5, donc là on doit être à 4 à peu près, ou même peut-être plus. Donc c'est un gros événement, et c'est une tribune pas possible pour le moindre imbécile qui a envie de faire parler de lui. Quand vous avez des caméras qui sont braquées quelque part, il y a toujours une opportunité pour ceux qui veulent faire parler d'eux. D'une manière des fois simplement, je dirais loufoque des fois, mais des fois également parce qu'il y a de la géopolitique et c'est l'occasion d'être un tremplin, une tribune. Et ça, c'est ça qui angoisse. Alors le renseignement en amont et tout de suite, qui est important dans nos événements, et la protection est dans le renseignement qui est essentiel pour protéger, puisqu'il ne faut pas oublier que tous les dispositifs qu'on met en place, ils ne sont que pour gérer au moment où ça ne va plus. Si vous n'avez pas géré en amont, eh bien, d'un coup, ça vous pète à la figure.
C'est le principe du renseignement. Mais ça, les gens ont du mal à comprendre comment fonctionne le renseignement. Ça veut dire, c'est la sécurité intérieure, c'est le Valois, en fait, c'est ça. C'est les services.
Absolument. Alors, tous les services sont braqués sur... Alors, ça démarre du moindre petit écho qui passe, parce qu'on entend que des gens, tout d'un coup, réagissent au jeu. Tiens, un peu comme le tour, quand il va passer à cet endroit, tiens, ça serait peut-être le bon endroit pour se faire remarquer. Pour les jeux...
Mais on surveille les téléphones portables, les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on arrive quand même en amont à recenser énormément d'informations.
Alors, heureusement, il y a des systèmes modernes, puisque les outils démultiplient à l'infini pratiquement le mode de communication. On a le système des mots-clés qui fait qu'on arrive tout de suite à faire... puisque tout le monde parle de raquettes. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de trous dans la raquette. Effectivement, une raquette, c'est constitué que des trous. Mais si c'est trop gros... c'est plus une raquette.
Mais la balle passe.
La balle passe.
Pour jouer au tennis régulièrement, je peux vous dire que la balle passe.
Tous les petits carrés de la raquette, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une sorte de filtre qui nous donne un ou deux mois avant l'ambiance géopolitique, voir qui pourrait être à un moment ou à un autre intéressé, puisque là on tape dans le haut du spectre sur ceux qui veulent vraiment se faire remarquer, faire mal et taper fort. Et c'est là où le renseignement est essentiel. Par contre, se dire qu'on va peut-être éviter malheureusement ce qui est arrivé au pont Birakeim, ça va être plus...
Et voilà. Et voilà, ça c'est l'élément d'inconnu. Jean Guédiras, dans une banque comme la vôtre, est-ce qu'on réfléchit aussi à sponsoriser, à subventionner, à donner de l'argent aussi pour des techniques nouvelles de sécurité? Je pense notamment aux drones, à différentes manières de surveiller, puisqu'on est quand même en 2023 et on a heureusement des moyens nouveaux.
Alors, nous, la banque, aujourd'hui, le principal sujet de sécurité, c'est la cybersécurité.
Ouais. Hein,
c'est toutes les attaques cyber. Et là, on est confrontés quotidiennement. Et on a des équipes qui sont chargées, comme toutes les banques.
Ce que disait un général de gendarmerie, je crois, il disait, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, c'est quand vous allez être attaqué.
Exactement. Donc, nous, les équipes sont mobilisées. Après, on se pose également aussi les mêmes questions, parce qu'on constate une montée des incivilités, par exemple, dans nos agences. Donc on protège nos collaborateurs, mais je dirais que globalement les choses se passent bien là aussi. Il y a une relation qui est importante, et moi dans un événement sportif, ce qui me semble important, c'est ces capteurs qui font que vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe. Quand on voit le Tour de France, quand on voit les 3500 km et on se dit c'est pas possible d'avoir qu'il ne se passe rien, eh bien parce qu'il y a cette connaissance du terrain, parce qu'il y a ce travail en commun de toutes les équipes travaillent ensemble, voilà, on arrive à ce que chaque année, c'est le troisième événement après la Coupe du Monde de foot et les JO, c'est le troisième événement le plus important. Donc voilà, c'est possible, c'est le côté, on se dit, positif de se dire c'est possible de réussir.
En faisant ce genre de sondage que vous faites régulièrement, qu'est-ce que vous apprenez
Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est d'apprendre le mieux vivre en ville. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les urbains, on avait eu, par exemple, post-Covid, on avait dit les urbains fuient la ville, c'est fini, etc.
Oui,
donc on voyait, on se souvient
de ça.
Voilà,
on voyait. Les gens ont d'ailleurs investi dans des maisons à la campagne. Voilà.
Alors, on voyait que c'est un micro-phénomène, qu'il y en avait beaucoup qui restaient, notamment les jeunes qui aiment la vie en ville, qui aiment ce qu'offre la vie en ville. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de, par cet observatoire, de proposer peut-être des nouveaux services, proposer des nouveaux produits que l'on peut, qui
donc
répondent
ça, c'est
aux attentes.
Pour votre intérêt, en l'occurrence, pour votre banque.
Et pour le mieux vivre en ville commun. Quoi, hein. C'est-à-dire que là, on voit par exemple sur le sport en ville que les urbains préfèrent la pratique du sport en ville parce qu'ils se disent l'offre est beaucoup plus importante que dans des communes plus petites, plus rurales. Voilà, c'est, même si c'est plus compliqué parfois pour se déplacer sur un stade, mais il y a plus d'offres.
Ouais. Et alors, en observant comme ça les urbains, leur comportement aussi, vous en arrivez aux questions de sécurité où effectivement il peut y avoir des failles ou des inquiétudes. Et là-dessus, ils sont inquiets, mais bon, en même temps, on continue de vivre. Quoi. C'est ça aussi.
Bah, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le côté plaisant de vivre en ville. Et reste très fort. Quoi. Hein, donc le vivre en ville avec toutes les difficultés que l'on peut connaître au quotidien, toutes les questions de sécurité, même si on voit parfois que la sécurité, ça peut tomber dans des villes beaucoup plus petites, voire des villages. Hein, donc on n'est pas à l'abri. Mais ça reste fort. Donc ce qui nous frappe, c'est qu'il y a une envie de vivre ensemble. Voilà. Maintenant, il faut le régler.
C'est amusant, Christian Proutot, quand on entend justement ce genre de constat qui est fait par Harris Interactive et la Banque LCL, c'est que on a beau dire que ces Jeux Olympiques vont être un enfer, qu'il y aura plein de monde, qu'on ne pourra pas passer, bah les gens quand même continuent à dire bah ça va être super et on va faire une grande fête. Et c'est pas du tout pour faire de la peine à Tony Estanguet, à tout le comité olympique, mais quand on est dans les services de sécurité et qu'il y a ces grandes pièces, alors je ne sais pas comment on les appelle, j'imagine des QG ou des avec toutes les télés qui vous montrent toutes les rues de Paris, etc. Mais ça doit être un enfer. Mais comment est-ce qu'on peut surveiller tout ça?
Non, mais bien évidemment, c'est un enfer, mais c'est en même temps un honneur de participer aux JO. Hein. Il faut se dire que ça arrive pas souvent dans un pays. Hein. Chaque pays a besoin, par rapport à l'image de son pays, tout d'un coup, d'organiser un grand événement. Alors, les Jeux Olympiques, en particulier les Jeux Olympiques d'été, capte tellement l'attention du monde que pour les gens qui y participent, que ce soit les volontaires, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toute une organisation très complexe. Il y a bien sûr la part de l'État qui est importante, mais le comité d'organisation lui-même a beaucoup de choses à mettre en place pour chaque événement, puisque c'est une multiplicité d'événements avec des contrôles d'accès et qu'il s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les volontaires. Et ces gens-là, pour eux, tout d'un coup, dans leur vie, avoir participé aux JO est quelque chose qui va rester d'une manière pérenne jusqu'à leur mort. J'ai participé aux JO. Mais pour les spectateurs aussi, regardez l'investissement qu'il faut faire pour venir aux Jeux. Vous avez beaucoup de gens, pas simplement forcément pour suivre leur sportif, mais également pour voir d'autres sportifs, pour voir une compétition qui est autre chose que certains, malheureusement, événements que l'on vit actuellement.
Et c'est un honneur également pour toutes les forces de police dont je parlais, qui sont dans ces pièces où on surveille, on quadrille la ville 24 heures sur 24, 7 sur 7, où on regarde tous les faits et gestes, en fait.
Ah oui, absolument. Moi, je me rappelle, il y a une chose que j'avais mise en place parce que j'étais sûr qu'il faudrait qu'il y ait une trace après les Jeux. J'avais 10 000 hommes, tous services confondus, en comptant...
En 92 à Albertville.
Oui, 92 à Albertville, donc sur 4000 km². Donc, il y avait donc police, gendarmerie, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait la DDE, les pompiers, les...
La direction de l'équipement, la DDE.
Voilà, tous les services qui ont contribué au bon fonctionnement des Jeux. Je leur avais fait un diplôme. Les gens, ils l'ont tous, dans leur bureau, encadré le diplôme d'avoir participé au jeu.
Ouais, et c'est une façon de les remercier. Et en même temps, j'en reviens quand même à ces nouveaux moyens de... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est prévu pour Paris? On va avoir des drones qui vont des drones de surveillance partout? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? On a suffisamment de caméras de surveillance? Est-ce qu'on va avoir des policiers avec des GoPros pour à chaque fois avoir une trace de ce qu'ils font et de est-ce qu'il va y avoir plus de j'allais dire de surveillance en amont avec peut-être des snipers et des chiens renifleurs qui vont aller voir. Enfin, comment ça va se passer concrètement, Christian Proutot ?
Alors, tout est par rapport à l'objectif qui est de protéger, tout est une succession de moyens. Et il faut quand même se mettre dans la tête que les moyens ne sont pas une fin en eux-mêmes. Ce sont les gens qui sont derrière qui les utilisent. Les moyens, c'est par exemple votre ordinateur, il vous permet d'accumuler beaucoup plus d'informations et vous tapez dessus pour aller les chercher. Un système de vision nocturne, il permet à l'œil de voir de nuit alors qu'il ne peut voir normalement que de jour. Les drones, c'est pareil, on peut voir de haut alors que c'est plus compliqué. Mais c'est un outil par contre qui peut avoir un effet contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise un drone, ça peut être un danger. Donc il va y avoir tout un système de couverture des drones, à la fois pour les surveiller, mais à la fois pour les intercepter. Voilà, en particulier pour la cérémonie des Jeux. Non, parce que vous avez un drone...
La cérémonie, c'est le moment vraiment où on craint le plus ?
Alors, oui, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que de l'étaler sur quelques kilomètres. Les cérémonies habituelles, ça se passe à l'intérieur d'un stade
fermé.
Ouais. Donc tous les gens sont contrôlés. Là, j'ai entendu dire, pour en avoir parlé, avec des personnes concernées récemment, qu'on avait diminué la jauge, qui me paraissait déjà importante. Je crois qu'on est à pas loin de 200 000, ce qui est déjà beaucoup. Mais dans le fond, pas exceptionnel, quand vous regardez les grandes manifestations qu'il peut y avoir sur Paris, des fois... on atteint ces chiffres, et la préfecture de police arrive à gérer ça. Mais là, c'est différent. C'est des gens qui vont avoir payé, qu'il faut avoir filtré, fait venir. Et j'en reviens à ce problème qui n'est pas un détail sur les drones, c'est qu'un drone, en lui-même, il n'a pas besoin d'être équipé d'une grenade ou d'autre chose pour être dangereux. C'est comme une balle de tennis que vous recevez en pleine figure. Même un petit drone. Donc un drone plus lourd peut blesser quelqu'un simplement du fait de voler. Donc il faut les contrôler. Ça fait partie du système qui va être mis en place également et qui va être une grosse couverture, je pense, et un gros enjeu par rapport à ces équipements modernes.
Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours, ces dernières semaines ? Je disais tout à l'heure qu'il y avait un couteau par jour. Jean Guédira, vous-même, à titre de tout simplement de citoyen, ça... Alors, vous avez continué de vivre.
Oui, bah, il faut continuer de vivre. Et c'est ça, moi, vraiment, un des enseignements de cet observatoire, c'est que les gens, ils ont envie de vivre en ville, ils ont envie de vivre ensemble. Voilà, donc ils y croient,
ça continue.
Ouais. Voilà, après, bien entendu, on compte sur tout le monde pour qu'il y ait le moins de couteaux possible.
Est-ce que vous retournez plus dans la rue ?
Non, à titre personnel, ça n'a pas changé du tout mes habitudes. Bon. Voilà, après.
Voilà un homme serein.
Je pense qu'il faut vivre,
effectivement, d'abord, la peur n'éloigne pas le danger. À moins d'être dans un sous-marin en plongée, je vois pas. Et encore, on a le risque de.
Vous vous emmenez, vous allez voir ce que c'est.
Je connais un peu. mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à la boîte dans laquelle vous êtes enfermé. Mais au moins, ça amène à l'image objective de ce que l'on peut s'amener à faire avec la peur. C'est-à-dire dans une boîte complètement hermétique et on ne vit plus. Donc voilà, je crois qu'il faut se dire qu'il y a un risque, mais que les moyens qui sont mis en place sont faits pour éviter que les gens soient confrontés à ce risque.
Qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter à cette grande cérémonie des Jeux pour qu'elle se passe totalement sereinement ? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus ? Est-ce que le comité olympique peut tout d'abord, au dernier moment, dire... Est-ce que ça s'est déjà passé sur une grande manifestation sportive de dire finalement on change tout parce que c'est trop dangereux, il y a trop de dangers. Soit on ferme, soit on fait rien, soit on fait ça dans un stade fermé. Ça s'est déjà arrivé ? C'est déjà produit ça ?
Moi j'en ai pas le souvenir, mais...
on garde la tête haute,
mais après il faudrait que le marathon soit couru dans le stade aussi en vase clos.
On ferait ça dans un vélodrome.
Voilà, après on ferme.
Imaginez le...
Imaginez le marathon de New York dans un vélodrome.
Voilà, donc
ou dans un stade de baseball.
C'est plus possible. Donc c'est vraiment, il faut que tout le monde se mobilise pour que on limite au maximum les risques. Quoi.
Bon, bah, en tout cas, on verra comment ça se passe, mais la sécurité sera assurée, que ce soit sur le Tour de France que vous sponsorisez, la banque LCL. Jean Guédira, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Christian Proutot pour toutes les explications sécuritaires que vous fournissez toujours avec beaucoup de, voilà, de soins, que ce soit sur Europe 1 ou sur CNews. Je signale justement ce livre, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé, Marie Édition, Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN, dont évidemment le tout premier est le fondateur que vous êtes, mon cher Christian.